un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
L'histoire se passe à Téhéran au début des années 80, juste après la Révolution. Un plan de restriction de la circulation dans le centre-ville est testé pour réduire la densité des embouteillages qui bloquent la capitale. En conséquence, il est interdit aux véhicules privés d'entrer dans le centre-ville entre 6h du matin et 15h. Certains automobilistes, dont le passage a été jugé nécessaire, ont néanmoins une autorisation spéciale. Le court documentaire d'Abbas Kiarostami, intitulé « Le concitoyen », raconte les aventures du policier en faction à l'entrée de la zone interdite, qui essaie de se débrouiller avec cette règle. À la fois, il l'applique à la lettre et refuse l'accès à des dizaines de voitures, et en même temps, il tolère de nombreuses exceptions quand elles sont de bon sens ou qu'il les juge pertinentes. Le moyen métrage offre ainsi une réflexion magistrale sur la règle et l'exception, sur le règlement et son interprétation. Mais les raisons pour lesquelles l'agent laisse passer ou pas les voitures sont parfois obscures et pourraient s'apparenter à son bon vouloir. Le film devient alors un subtil et discret réquisitoire contre l'arbitraire. Et c'est ici que s'arrête le parallèle entre le personnage de Kiarostami et le chauffeur de bus dont on vous raconte l'histoire aujourd'hui. Car les décisions de Damien ne sont jamais arbitraires. Il fait seulement preuve d'humanité et d'un certain sens des responsabilités dans sa façon d'interpréter la règle, car tel est bien notre sujet. Et c'est un récit signé Clément Baudet.
Je m'appelle Damien, je suis petit agriculteur, très petit agriculteur même. Alors, j'ai 70 ans aujourd'hui, on habite dans la commune des Bilanges, dans le Limousin, département de la Haute-Vienne. Alors on est à 35 km de Limoges, ça veut dire environ 40 minutes. J'ai été ouvrier agricole, puis je me suis installé à mon compte avec deux vaches qui se sont multipliées. Et ensuite je me suis marié avec une femme qui avait déjà trois enfants. Et puis on en a eu quatre ensemble par la suite. Avec un tout petit troupeau de vaches allaitantes en Limousin, quelques activités annexes de bûcheronnage et de vente de bois de chauffage, on a un revenu extrêmement faible. Il ne faut pas se voiler la face, c'était les allocations familiales qui faisaient rentrer le plus d'argent dans la famille. Très jeune, j'ai fait énormément d'autostop. Et j'avais souvent dans l'idée qu'un jour, j'aurais un minibus ou un car, et puis je prendrais tous les autostoppeurs. Quand l'occasion s'est présentée de transporter mes propres enfants pour les emmener à l'école, c'était un moment pour être avec eux un petit peu plus longtemps. Très rapidement, j'ai pensé que le transport scolaire pourrait être un revenu complémentaire à mes très faibles revenus agricoles. J'ai vite pris contact avec les municipalités qui organisaient les transports scolaires à cette époque-là, il y a maintenant 25 ans. On avait acheté un minibus qui était suffisamment grand pour emmener, bien sûr, notre famille, mais aussi les élèves de l'école communale. Il se trouve que la commune voisine cherchait un conducteur pour remplacer son cantonnier qui avait plus de travail dans la commune. Et c'est à ce moment-là que je suis rentré officiellement conducteur de car scolaire dans ce secteur, en Haute-Vienne. Ça fait un revenu aux alentours de 7000 euros par an. Quand on a une activité agricole, en hiver, les journées sont beaucoup plus courtes. Et donc, il fallait souvent que je m'occupe de nourrir les animaux à l'étable avant le départ. Ça prend environ 2 heures le matin et 2 heures l'après-midi. Et en été, au retour de déposer les collégiens, je saute sur mon tracteur pour faire les foins, pour faire diverses activités qui sont essentielles pendant l'été. Et donc, la journée peut se finir extrêmement tard.
Thank you.
approximativement il y a une quinzaine d'enfants dans chaque voyage. La distance était 50 km le matin et 50 km l'après-midi. Le transport scolaire, c'est pas seulement faire monter des enfants et les déposer, c'est aussi avoir une relation particulière avec c'était les petits-enfants, puisque c'était l'école communale, mais après, quand ça s'est étendu au collège, on connaît les enfants, on connaît leurs prénoms, tutoie très souvent les parents, et très souvent, les enfants nous tutoient. C'est une relation presque familiale. Les enfants du car scolaire sont presque mes petits-enfants. Quand ils montent dans le car, je prends de leurs nouvelles, je prends des nouvelles de leurs parents, de ce qu'ils ont fait pendant les vacances. Et c'est un plaisir pour moi et j'espère pour eux d'avoir une relation comme ça. Même si sur le plafond du car, il y a écrit « il ne faut pas parler au conducteur sans motif urgent ». Bon, bah avec les petits-enfants, on roule à 40 km/h maximum. Et on est bien sûr vigilant de tous les dangers qui pourraient arriver. On roule souvent sur des routes très dangereuses, tortueuses. En hiver, il y a du verglas, il peut y avoir de la neige. À l'automne, il y a des feuilles qui, quand il pleut, sont aussi glissantes que le verglas. Quand au détour d'un tournant très étroit, on croise une citerne de gaz qui roule un petit peu trop vite, eh bien, il faut qu'on sache réagir. Donc, on connaît les endroits particulièrement dangereux. Et à ce moment-là, je dis aux enfants, bon, là, on chante plus. Je dois me concentrer. C'est difficile. Hein, on reprendra après. D'accord. Bon, pas de problème. Les enfants, ils ont jamais fait d'histoire. C'est un métier qui, moi, j'ai toujours trouvé qui était enthousiasmant. C'est un petit peu le prolongement de l'école. Avant l'école, le matin, on aide les enfants à se réveiller. Et puis le soir, on chante. Souvent, moi, je prends le temps d'expliquer telle ou telle chanson. Quand on chante Santillano de Hugo Frey, qu'est-ce que c'est qu'un trois-mâts pour des enfants d'école primaire du Limousin? J'explique. Par exemple, sur la situation des lieux, expliquer le nom d'un pont qu'on traverse. Pourquoi le pont s'appelle le pont rouge? C'est parce que quand il y avait des gros orages, il y avait de la terre qui était emportée par les ruisseaux et que l'eau qui coulait sous le pont prenait une couleur rouge. Je prends toujours du temps pour leur expliquer ce qui pousse sur le bord de la route. Ici, c'est de l'orge. Et pourquoi on cultive du maïs alors qu'on ne mange pas le maïs? J'essaie d'expliquer tout ça aux enfants. Ça m'amuse, et puis eux, bon, ils en retiennent ce qu'ils peuvent. Ils en retiennent quelque chose de temps en temps. Et la relation est particulière pour le dernier enfant de la tournée. C'est beaucoup plus personnel. L'enfant parle plus de sa famille, des soucis qu'il ou elle peut avoir. Quand il y a un parent qui a une maladie chronique, on s'inquiète avec eux, on prend des nouvelles. Notre devoir, nous, c'est d'être particulièrement discret, puis de ne pas se mêler de leurs affaires personnelles. Mais les enfants s'épanchent un petit peu plus à ces moments-là. C'est très émouvant, quelquefois. En 2005, c'était la commune où se trouvait l'école primaire qui organisait le transport. Les cars scolaires leur appartenaient. Puis, quand la commune a cessé d'organiser le transport, c'est devenu une entreprise privée. L'organisation est devenue départementale. C'est devenu un petit peu plus rigide, avec une insistance pour appliquer le règlement. Règlement qui est instauré depuis fort longtemps, mais qui, quand c'était communal, était vu avec souplesse et humanité. De plus en plus, on avait l'insistance de ne pas faire d'arrêt de complaisance. Ce qu'on appelle un arrêt de complaisance est un arrêt où on facilite la vie des parents et on facilite la sécurité des enfants, c'est-à-dire déposer les enfants au plus proche de leur domicile et non pas dans un endroit où ils devraient marcher au bord d'une route. Parce que dans les hameaux, les enfants se groupent autour d'un point, qui est le point de ramassage. Mais suivant l'étendue des hameaux ou suivant la disposition des fermes ou des habitations, il peut y avoir certains arrêts où les enfants doivent parcourir plusieurs centaines de mètres pour aller jusqu'à l'arrêt officiel. Sur le bord de route, qui sont quelquefois des routes départementales. Le matin, les gens qui conduisent leur voiture sont encore un peu endormis. Les vitres ont souvent de la buée sur le pare-brise, quelquefois du givre en hiver. C'est particulièrement dangereux pour les enfants, où il fait nuit le matin et il fait nuit le soir aussi à leur retour. Donc, pour éviter le danger aux enfants, je m'arrête toujours au plus proche du domicile des parents. C'est pas faire un détour qui consommerait plus de carburant, c'est juste faire un arrêt, ouvrir la porte, refermer la porte et repartir. Quand le conseil départemental a pris les choses en main, les responsables organisateurs se sont mis dans l'idée qu'il fallait augmenter la sécurité des enfants, c'était tout à fait louable, et pour ça, ils ont distribué aux enfants une petite réglette en métal fluorescent que les enfants devaient placer autour de leurs bras ou de leurs jambes pour être vus quand ils marchaient le long des routes, la nuit en particulier bien sûr. Cette petite réglette étant en métal, les enfants s'en sont vite servis pour faire des épées qui quelquefois ils se sont coupés. Donc on a vite enlevé cette petite réglette, on l'a remplacée par un bandeau avec un velcro. Là, les enfants l'ont mis dans leur poche et puis l'ont perdu, l'ont pas utilisé. Et assez rapidement, on est passé au gilet jaune. Le gilet jaune étant devenu symbole de contestation, on a arrêté de distribuer des gilets jaunes aux enfants. Donc, je m'arrêtais toujours aux arrêts officiels, bien sûr, mais j'ai pris l'habitude très rapidement de m'arrêter systématiquement à l'endroit le plus proche et le plus sécurisé pour l'enfant, que ce soit des enfants d'école maternelle, primaire ou collégien. Et j'en avais averti les autorités de mon entreprise. C'était toujours des relations assez proches avec le chef d'entreprise. Si on avait une difficulté, on avait le numéro personnel du responsable. Et j'ai continué cette pratique. Mais tous les 4 ans, les entreprises de transport scolaire sont soumises à un appel d'offres. Au printemps 2022, notre chef d'entreprise nous a dit « On va être repris par une autre entreprise, donc ce ne sera pas moi qui serai votre patron l'année prochaine, à la rentrée de septembre. » Le nouveau chef d'exploitation nous a très vite fait comprendre, en venant à notre domicile pendant l'été, que les relations seraient totalement informatisées. Donc il fallait avoir une assez bonne maîtrise d'Internet, des courriers, des envois de documents par Internet, et qu'il y aurait pour les élèves un système d'enregistrement avec carte à puce, et pour le conducteur, un appareil qu'on devrait déclencher et sur lequel on enregistrerait les enfants absents. On n'avait pas conscience, en tout cas pas moi, que ça signifiait une géolocalisation, c'est-à-dire un pistage au mètre près et à la seconde près de où se trouvait et à quel moment se trouvait le véhicule. Pour moi, personnellement, ça a été un problème important parce que je suis une personne qui se considère comme handicapée d'Internet. Je n'ai pas du tout de facilité pour ça. J'ai fait savoir à mon employeur qui m'a dit « mais c'est pas grave, vous serez formé, etc. » En fait, ces formations n'ont pas eu lieu du tout. La formation a eu lieu en moins de 5 minutes. On a présenté le document. Pour moi, c'était de l'hébreu. Cette entreprise nouvelle était complètement débordée par sa nouvelle activité. C'était des jeunes repreneurs qui étaient parfaitement au fait de l'informatique, mais absolument pas au fait de comment se passait un transport scolaire en milieu rural. La première fois que j'ai pris ce bus avec cet appareil d'un système d'enregistrement, je ne l'ai pas employé, parce que je ne savais pas faire. Puis, il nous a été imposé de le mettre en route, et moi, je le faisais d'une manière inadéquate, parce que je n'avais pas vraiment envie de le faire d'abord, et puis ensuite, parce que j'en étais totalement incapable, même avec de la bonne volonté. Donc, très souvent, ça ne marchait pas du tout, ce qui n'empêchait pas le véhicule d'être géolocalisé. Donc ça a mis de mauvaises relations entre moi et mes supérieurs. Et j'ai continué à faire mon circuit pour le mieux, pour les parents et pour les enfants. Je savais très bien que je pratiquais ce qu'ils appellent des arrêts sauvages. Et l'entreprise ne l'a plus toléré à partir du moment où ils avaient la preuve formelle sur la géolocalisation que je le pratiquais. Alors qu'avant, c'était qu'une déclaration de ma part que je m'arrêterais dans la situation la plus sécurisante pour les enfants. Mi-novembre 2022, j'ai reçu une lettre avec accusé de réception qui me convoquait à une entrevue à la direction de l'entreprise pour une sanction qui pouvait aller jusqu'au licenciement. Je suis reparti chez moi en étant relativement confiant. De toute façon, j'ai toujours agi pour le bien des enfants, pour leur sécurité et pour leur bien-être. Et j'ai reçu 3 jours après un coup de téléphone qui m'annonçait que j'étais licencié sans préavis ni indemnité. Donc, du jour au lendemain, c'était une nouvelle conductrice qui prenait mon service. Quand j'ai annoncé aux enfants que j'allais être licencié, j'avais les larmes aux yeux. Et les enfants, quand ils sont rentrés chez eux, il y en a plusieurs, même parmi ceux qui étaient des collégiens, qui étaient un petit peu les caïds du quart, ils sont rentrés chez eux en pleurant aussi, en disant que j'étais licencié. Bon, tout le monde a été bouleversé. Il y avait dans le quart des collégiens en particulier, des cris de « on veut Damien, on veut Damien, on veut Damien ». Les enfants écrivaient mon nom sur la buée des carreaux. Ça m'a touché énormément. Ça faisait 17 ans que je travaillais sur ce secteur. Ça m'a fait un sale coup. J'étais extrêmement en colère contre mon responsable de secteur, contre cette entreprise et contre une rigidité stupide. À la suite de mon licenciement, immédiatement, les parents de mon secteur ont averti la presse locale. Le maire et tout le conseil municipal ont adressé leur regret que je sois licencié. J'ai eu un soutien énorme et c'est pour ça que j'ai pas hésité à m'adresser au prud'homme. Bon, du fait que les conducteurs nouveaux s'arrêtent exactement où je m'arrêtais moi auparavant, bon, je considère que ce licenciement est abusif, évidemment. Ma frustration essentielle, c'est le fait que le règlement du transport scolaire soit d'une telle rigidité que le service disparaît de plus en plus, que la sécurité des enfants n'est pas réellement prise en compte et que la concertation avec les parents est inexistante. Le transport scolaire avec les enfants me manque énormément. C'est un petit peu comme si j'étais séparé de mes petits-enfants ou de mes enfants. Je les aimais beaucoup, je les appelais par leurs prénoms tous, je connaissais un petit peu leurs histoires. La vie des uns touche la vie des autres. Oui, je suis très très triste de les avoir laissés. Je me suis adressé à d'autres entreprises de transport scolaire, puisque toutes les entreprises cherchent des conducteurs et conductrices. Mais les entreprises qui m'auraient embauché et avec qui j'ai pris contact m'ont dit « je vous prends dès demain, mais vous devrez faire 50 km le matin pour venir prendre votre poste ». Cette situation était absolument impossible. J'aurais dépensé plus de carburant que j'aurais gagné de revenus. Et les entreprises en étaient bien conscientes. Donc on n'a pas pu finaliser ça. Donc pour l'instant, j'ai pas de revenus. À l'âge de 70 ans, j'ai fait ma demande de retraite pour ma conduite de 17 ans de car scolaire, puisqu'avant je ne touchais pas de retraite du tout. Et ça m'a été attribué une retraite de 250 euros par mois. Et mon activité d'agriculteur me procure un revenu de 6 euros par mois. Donc je dois vivre avec ça pour l'instant. Je me débrouille. Je fais mon bois de chauffage. Je me chauffe uniquement au bois. Et j'utilise le moins d'électricité possible. Donc, Je vis petitement et simplement. Je suis proche des gens en général, donc je vais postuler très prochainement dans les EHPAD, par exemple. Si je suis embauché, je serai un vieux de 70 ans qui s'occupe de personnes âgées, donc je peux aider les personnes à mobilité réduite à se déplacer, je peux parfaitement faire une activité de soins, aide à l'alimentation, aide éventuellement à la toilette, au déplacement, aux activités de divertissement, par exemple, chanter des chansons. Je peux chanter même des chansons en patois, en occitan maintenant, on doit dire. Pour les personnes âgées, ça peut leur faire une petite activité qui leur rappelle un peu leur jeunesse. Et faire de l'animation comme je faisais au volant de mon car, ça me plairait tout à fait.
J'ai 10 ans et je m'appelle Zaina. Je suis à l'école de la Jonchère et je suis en CM2. Je suis arrivée dans cette école, c'était lui mon premier chauffeur de bus. Il était gentil, il nous parlait très très souvent. Il m'a appris des chansons comme Biquette Biquette, La mère Michel qui a perdu son chat. J'espère qu'il revienne pour m'apprendre de nouvelles chansons. Là, la nouvelle conductrice, elle fait rien du tout. On chante plus du tout. Et c'est le silence complet dans le bus. J'aime pas ça. Parce que je préfère Damien quand même.
Moi, c'est Anaïs, j'ai 32 ans. J'ai 3 enfants et l'école se situe à peu près, on va dire, à 6-7 km de la maison. Ça fait 7 ans que mes enfants prennent le car avec Damien et du jour au lendemain, je suis arrivée à l'école et Damien m'a clairement dit que c'était sa dernière journée pour lui. J'ai été très, on va dire, choquée vraiment parce que du coup, je m'attendais pas du tout à ce que Damien soit mis à pied comme ça et même du coup viré, licencié. Ensuite, clairement, je m'en suis un peu voulu parce que du coup, nous, on vit à côté d'une départementale. Il faisait un arrêt spécial pour nous parce que il y avait pas luminosité, il y a un virage. Mes enfants, moi, je travaille aussi, donc mes enfants sont quand même âgés de 10, 7 et 4 ans. Tout seul, tous les trois dans le noir, aller jusqu'à l'arrêt de bus, c'était dangereux pour eux. Et il n'y avait pas à l'époque d'arrêt de car, malgré les demandes qu'on avait faites. La situation, du coup, on a voulu faire des lettres, donc on a été avec même un autre papa, on a fait des lettres recommandées à la région, justement, pour du coup avoir un arrêt de bus qui était moins dangereux que celui qui était déjà actuellement. Finalement, on n'a jamais eu vraiment de réponse. Donc au début, on descendait, et les 2-3 fois où j'ai failli me faire faucher par une voiture qui arrivait trop vite et qui ne m'avait pas vue, Damien a pris la décision de laisser les enfants ici, à l'endroit où, justement, il y a un parking, ce qui permet qu'il n'y a pas de danger. Depuis le licenciement de Damien, on a eu beaucoup de chauffeurs différents. Il y a un jour où ils ont oublié mes enfants, et pas que les miens, parce qu'il y avait aussi la voisine qui est en face, la petite fille. On a attendu jusqu'à un bon 20 minutes, et il n'est jamais venu. Alors moi, ça m'inquiète pour la suite, puisque je suis une maman qui n'a pas le permis et qui n'aura jamais le permis. Je suis aveugle d'un œil depuis la naissance, je me suis fait opérer, et je suis dans l'incapacité de passer le permis aujourd'hui. Donc, en vivant en campagne, avec 3 enfants, ça m'inquiète du jour au lendemain de me dire si on n'a plus de transport scolaire, comment ça va se passer? Et on a eu, comme par magie, il y a 2 semaines, un arrêt de bus posé juste ici, devant, à côté de la maison, qui était moins dangereux. On s'est retrouvés tous les parents pour savoir ce qu'on pouvait faire pour aider du coup Damien et surtout qu'on se fasse entendre aussi de notre côté. Donc il y a une pétition qui a très bien marché. Il y a eu aussi une cagnotte en ligne qui a été mise en place pour Damien. Enfin, on a essayé d'être là à notre échelle comme on pouvait.
C'était Le chauffeur de bus et les collégiens, un reportage de Clément Baudet réalisé par Anne-Laure Chanel. Merci à Damien, à Jean-Christophe Rouxel, à Anaïs Zaina et aux habitants des Bilanges. C'est Céline Paris, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et c'est Rita Ruggirello, notre stagiaire.
The end of the day, there's just me in the living room, sitting on a couch, with my guitar and tired voice, some words on the laptop. Emotions from my depression to inspire me. Some medication, a new therapy, and the sound of the kitchen boiler to keep me company. Leave me alone, for I'm a storyteller. Let me shoot for the stars to the dreamers. Leave me alone, you all bad news bearers. Sometimes bored, sometimes anxious, the lump in my throat, the shortness of breath, and heavy weight on my chest. I'm not sure I wanna save the day. Is it beautiful enough to keep me going? Maybe there's no greater purpose. No change of scenery. I'll wait and see.